Binge Audio. Quand je me suis séparée de mon ex, je voulais lui demander d'enlever les photos de moi qu'il avait sur son Instagram. Déjà parce qu'on s'était séparés en mauvais termes, alors je trouvais que ces images ne disaient rien de la réalité de notre relation. Qu'elles me rendaient même nostalgique d'un passé qui n'avait jamais totalement existé. Mais bon, je n'osais pas trop. Mais je n'ai plus hésité quand il a commencé à poster des photos de sa nouvelle compagne. Évidemment, le fait qu'il soit en couple m'a un petit peu piqué, mais c'était plus que ça. Ça me rendait dingue qu'on soit là, comme ça, toutes les deux, l'une à la suite de l'autre, représentées bien sagement dans nos petits carrés, dans nos blocs identiques. J'avais l'impression que rien ne nous différenciait, que j'aurais pu être elle ou elle être moi, que le temps ne passait plus, que tout se valait. Je préférais ne plus du tout apparaître dans sa galerie que n'être qu'une parmi tant d'autres. Dans notre tête, avec le temps, les souvenirs s'adoucissent, changent même de couleur, de teinte. Notre mémoire fait un travail de tri. On ne se souvient pas de toute sa vie. Dans le monde physique, les photos jaunissent. Mais sur Instagram, toutes les images restent au même niveau pour l'éternité. Est-ce qu'on est fait pour vivre avec nos souvenirs, tous nos souvenirs, sans cesse ramenés à la lisière de notre conscience ? On a beaucoup parlé du droit à l'oubli il y a quelques années, pour pouvoir effacer ces erreurs de jeunesse de Google. Faudrait-il revendiquer un droit au passé, un droit aux souvenirs qui se troublent ? Instagram et les autres réseaux sociaux ont-ils tué le passé ?
Non mais laissez-moi parler. C'est vraiment insupportable.
On peut plus rien dire.
Vraiment, c'est n'importe quoi.
On peut plus rien dire.
Et la prochaine fois, ça sera quoi ?
On peut plus rien dire.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
On peut plus rien dire.
On va le dire quand même.
Bienvenue mes chers amis dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander aujourd'hui si Instagram a tué le passé. À mes côtés pour répondre à cette question, j'ai le bonheur de recevoir Barbara Evans. Barbara Evans, salut.
Bonjour.
Tu es artiste, performeuse et photographe et tu exposes cet été à Arles une performance qui s'appelle Catalogue, on y reviendra. Et Nicolas Giraud, bonjour.
Bonjour.
Tu es photographe, artiste, rédacteur en chef de la revue Inframince et auteur du livre « Usage du temps ». Alors, c'est pour ça que je me penche vers toi pour la première question, Nicolas, comme tu as écrit ce livre « Usage du temps ». Est-ce que tu peux nous dire si, selon toi, les réseaux sociaux ont modifié notre rapport au temps ?
Oui, fondamentalement, totalement, parfaitement. Je précise sur la question du livre, je ne suis pas le seul auteur du livre.
Oui, c'est un livre avec une trentaine de
travail,
co-auteurs.
Un travail collectif qui a été fait avec un groupe d'étudiants nombreux et qui ont mis énormément d'énergie dedans. Donc, je ne veux pas me prendre la paternité de tout ce
tu
travail.
Tu as raison.
Mais je suis parfaitement d'accord avec toi sur cette question du temps. C'est-à-dire que je pense que les réseaux sociaux viennent, comme tu l'as dit, restructurer la façon dont on perçoit le temps. De plein de manières. Il y a la question de l'économie de l'attention dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire comment est-ce que par un système d'alerte constante, etc., on se retrouve dans une espèce de stimulation constante. Et par ailleurs, effectivement, ce que nous produisent les réseaux sociaux, c'est que nous vivons dans les images, presque autant que l'on vit dans le réel, pour ainsi dire. C'est-à-dire que si on réfléchit à nos interactions avec nos amis, nos amours, etc., on s'aperçoit que finalement, on est peut-être quotidiennement plus en rapport avec leurs images, avec leurs représentations, qu'avec eux-mêmes.
C'est comme s'il y avait une nouvelle dimension, presque.
Oui, Il y a une nouvelle dimension. Si on y réfléchit, prenons le 19e siècle. On pouvait dire qu'un individu au 19e siècle était en contact avec ses semblables, les gens qui l'entourent, et puis avait une confrontation quand même plus ou moins quotidienne avec les animaux. Il y avait des chevaux, il y avait un rapport à l'animal. Par exemple, 19e, c'est peut-être un peu tard, mais bon, disons, mettons.
Oui, dans le passé.
Dans le passé, il y a longtemps. Je ne suis pas un spécialiste de l'éthologie, mais en tout cas, voilà, il y avait un rapport très fort à l'animal. Et finalement, si on pense à notre quotidien contemporain, on pourrait dire que ce rapport à l'animal a été remplacé par un rapport à un autre règne, qui est celui des images. C'est-à-dire que finalement, de la même manière qu'on pouvait être en contact avec des chevaux, des chiens, des poulets, des poules, quotidiennement, là aujourd'hui, on est en rapport avec une autre espèce qui a aussi ses manières de se développer, de se reproduire, de circuler, de cohabiter avec nous. Et c'est une espèce étrangère. Et c'est une espèce d'ailleurs, d'une certaine façon, encore plus éloignée de nous que l'espèce animale, puisque on peut avoir, on va dire, un échange et une communication avec des animaux, comme c'est un peu plus compliqué d'avoir un échange et des communications avec des images, même si on essaye assez tragiquement tous, et souvent d'ailleurs on échoue, mais en tout cas on cohabite en fait avec ça.
Barbara Evans, toi tu t'es livrée à une performance où tu as photographié les 12 700 objets qui étaient dans ta maison. Chaque spatule, chaque fourchette, chaque jouet de ton fils, chaque fringue de ta fille, même tous tes sextoys. Tu t'es livrée à un aplat de toutes tes possessions. Pourquoi?
Oui. Pourquoi d'abord, déjà, je me suis lancée là-dedans, en fait, sans vraiment réaliser pourquoi. C'était en 2015, je venais de déménager, j'ai pas arrêté de déménager, j'en pouvais plus. Et après un divorce, je suis revenue vivre à Bruxelles. Et j'avoue que dans ce nouvel endroit, tout était un peu branlant, instable, je me retrouvais plus, et en fait j'ai ressenti un sentiment, j'avais vraiment envie de me confiner chez moi, en fait. C'est avant la pandémie, mais j'avais envie de retrouver une stabilité, et j'ai voulu commencer ce travail d'introspection, justement, de commencer à photographier chaque objet de ma maison, de le classifier. J'avoue que j'ai toujours eu un peu une relation étrange avec les objets. Je suis pas du tout, je suis pas une voyageuse. Je suis plutôt casanière. Et je crois justement que, c'est pour ça qu'on en reparlera de la réalité. Je trouve que le monde il est assez chaotique autour de moi. Et je crois que les objets sont un peu mes références stables. C'est comme s'ils me protégeaient. Ça peut paraître pathétique, mais voilà, je ressens un sentiment de quiétude dans l'inertie.
Et le fait de les... je ressens un sentiment de quiétude dans l'inertie, c'est une belle phrase, pardon, je suis désolée de t'avoir coupé à ce moment-là. Le fait de les avoir photographiés, est-ce que du coup ça te donnait encore plus de stabilité? C'était pour renforcer cette stabilité?
Ben, en fait, oui, parce que y a vraiment cette analyse. Je ne sais pas du tout si le fait de les avoir photographiés, de les avoir classifiés, etc. Mais en fait, j'ai réalisé, mais ça, c'est à la toute fin, en fait, que j'ai réalisé ça, parce que, enfin, comme j'avais dit, je crois qu'au tout début, j'ai cru que c'était l'axe central de mon travail, ce serait tout ce qui est surconsommation, gratification immédiate, etc. Et en fait, j'ai réalisé à la fin de mon travail que en fait, je faisais ça pour moi. Je crois que c'était vraiment pour ma santé mentale. Le fait de chaque fois identifier chaque objet, ce qui me procurait du plaisir, etc. Je le faisais pour moi, en fait. Enfin, je le faisais pour ma santé mentale. C'était, en fait, j'organisais ma pensée et j'organisais ma vie, en fait, qui était branlante.
Est-ce que c'est pour ça, Nicolas, que la photographie existe selon toi? C'est aussi pour nous permettre de trouver des traces, de laisser des traces de notre passé, de notre vie? Je voulais vous faire dialoguer parce que je trouvais qu'il y avait un rapport entre...
C'est assez passionnant cette question. Moi, je me demande toujours comment est-ce que tu as photographié l'appareil photo.
Je l'ai photographié avec mon autre appareil photo. J'en ai deux. Et c'est drôle, c'est une des questions qu'on me pose souvent. Mais moi, je me demandais en fait aussi, mais c'est vraiment une question, hein, donc parce que je crois que je suis aussi devenue peut-être plus tolérante aussi avec Instagram. Je crois que maintenant, comme ça fait longtemps que ça existe, on qu'on commence quand même tous à connaître les rouages et que on sait que 90% est fictif. Mais moi, enfin, je sais pas pourquoi, en fait, je crois que je suis de plus en plus fascinée par, enfin, je suis épatée par les gens qui arrivent à rester ancrés complètement dans la réalité. Je trouve que la réalité, elle est foutrement difficile. Elle est cruelle, elle est souvent injuste. On a beaucoup de chance, déjà, nous, je trouve, déjà, de pouvoir même en parler. Alors que, enfin, voilà. Et je peux comprendre, enfin, et je le fais, moi, justement, mais peut-être avec des travaux artistiques, mais je peux comprendre qu'on a envie d'en sortir pour créer sa propre réalité, même un peu plus douce, un peu plus belle. Et je me demandais, avant, je me disais toujours, on poste des photos pour les autres, avec les likes, justement. Au début de mon projet, je me suis dit, tiens, je vais quelque part être militant, dénoncer la gratification immédiate. Et en fait, je me demande si on ne le fait pas pour nous aussi. Enfin, je veux dire, comme tu disais, avec la mémoire sélective, on garde, dans notre mémoire, on ne garde pas les traumatismes très longtemps. On garde les souvenirs. Je ne sais pas. Je me suis dit...
Nicolas Giraud.
Ouais, c'est très vaste comme question, mais j'ai l'impression que... On est entré dans un espace social, et c'est l'espace social médiatique. J'entends média au sens de ce bon vieux Marshall McLuhan, hein, c'est-à-dire que chaque chose est un média, la radio est un média, la télévision est un média, mais la lumière électrique est un média. Enfin voilà, dans cet espace médiatique, le média fonctionne comme une prothèse. Et je pense que on est arrivé à un état de notre humanité où on est augmenté d'un certain nombre de choses, mais comme toute prothèse, la prothèse va permettre de décupler une possibilité. Enfin, la télévision, c'est ça. La télévision, c'est je vois plus loin. Donc, comme je vois plus loin, bah, ça me permet de voir ce qui se passe à Shanghai ou à n'importe quelle autre extrémité du monde, ou voir même ce qui se passe dans l'immeuble d'à côté. Enfin, voilà, c'est cette espèce de rapport. Mais par contre, ça se paye toujours d'une amputation, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si je suis devant la télévision, je suis précisément coincé le cul devant la télévision. Et donc, je pense que sur la mémoire, c'est la même chose. C'est-à-dire que la photographie vient produire quelque chose, et les objets, déjà avant... la photographie surajoute, en fait, la mécanique des objets. L'objet est quelque chose. C'est assez fascinant.
Mais alors, du coup, pour revenir à nos moutons... Comment, selon toi, dans ton travail, tu expliques que, par exemple, les réseaux sociaux ont transformé notre rapport au temps parce qu'ils ont transformé notre rapport à la narration. Dans un film, dans un livre ou même une série Netflix, il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu. Sur les réseaux sociaux, tout a lieu en permanence et en parallèle. Et du coup, ça nous maintient dans un présent permanent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Par exemple, ce que tu dis sur le cinéma et la série Netflix, il y a déjà un déplacement qui se fait. C'est-à-dire qu'un film, tu t'assois au cinéma, il y a un début, à la fin, le film est terminé.
Oui, Netflix avait déjà commencé à...
Netflix, c'est exactement la même logique qu'Instagram. C'est-à-dire que finalement, ça n'est jamais fini. À la fin de l'épisode, il y a un autre épisode. À la fin de la saison, il y a une autre saison. Et une fois qu'on a terminé la saison 4, on fait une histoire qui est plus ou moins inspirée de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on est rentré... Enfin, ce que ça produit, ce que produit cette chose-là, c'est ce que produisent, on va dire, pour dire rapidement, l'image numérique. C'est l'image numérique, c'est... pas seulement une image, comme pourrait l'être une peinture, une gravure, une photographie argentique. L'image numérique, c'est une image qui a son propre pouvoir de démultiplication. Une image numérique, elle est toujours à plusieurs endroits à la fois, elle ne cesse de se multiplier, de se démultiplier. Et donc, en fait, nous, on est en quelque sorte, avec une quantité de temps limitée dans la journée, et si le nombre de ces images qui nous tombent dessus augmente techniquement d'une manière délirante, on se retrouve surstimulé par ces images. Donc, c'est ce qui se passe avec Netflix. C'est-à-dire, tu vas voir un film, c'est 2h30 de ta vie, et puis c'est terminé. Tu commences une série, tu sais que c'est des jours, voire des années avant la saison 3, de la saison 4. Voilà, donc ça nous met dans un état de suspens. On est suspendu dans le temps de la salle de cinéma. On est suspendu pendant 2 heures. Mais quand en réalité, si on pense à Netflix, si on pense à Instagram, si on pense à n'importe quel espace comme ça, on est suspendu tout le temps. Et c'est là où cette histoire de prothèse, elle est là. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on pourrait dire que les réseaux sociaux sont une espèce de prothèse de notre existence sociale. À la fois, ça nous ampute de notre existence sociale parce qu'on est ben, n'importe quel wagon de métro où tout le monde a la tête sur son téléphone. Donc on est amputé de notre présence à l'espace social, comme la personne qui est devant la télévision est amputée de sa présence au monde. Et en même temps, on a l'impression d'être ultra démesurément inscrit dans l'espace social.
Barbara, toi, ta performance, c'était un petit peu le contraire d'Instagram, parce que c'est une exposition non hiérarchisée, non éditorialisée, totale de ton intimité, de ta vie privée. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais pensé en opposition justement aux réseaux sociaux ?
Oui, parce qu'au tout début, effectivement, ce qu'on voit sur Insta, c'est naturellement, toutes les images sont très contrôlées. Je veux dire, on montre ses voyages, ce qu'on mange, ce qu'on a acheté, mais de façon très maîtrisée, très contrôlée. Et moi, j'ai vraiment décidé de tout montrer, donc de pas montrer que le recto maîtrisé, mais le verso sans sélection aucune. Mais très franchement, de nouveau, même si c'est les 12 795, là il y a vraiment eu aucune sélection, il y a vraiment mon vibromasseur, mes anxiolytiques, mes chaussettes trouées, il y a tout. Mais la seule chose, c'est que de nouveau, j'ai quand même composé, j'ai composé mon livre, j'ai composé mon expo de façon très contrôlée, très esthétique, et donc de nouveau. À nouveau, je remoulais quelque chose à mon image, en fait.
Ce que tu disais tout à l'heure qui était très intéressant, c'est que ce projet, il a commencé quand il y avait un déménagement, un divorce. Plus tard aussi, tu le reprendras suite à un deuil. Est-ce qu'il y avait une volonté d'arrêter le temps ?
Bah oui, bien sûr, naturellement. Je crois que c'est enfin, je crois, je suis un peu une collectionneuse de rosés, donc j'ai toujours voulu retenir le temps. Et d'ailleurs, par exemple, même parce que je suis devenue, enfin, comme j'expliquais, je suis devenue de plus en plus fétichiste, etc. Mais j'ai réalisé surtout que tous les objets qui m'étaient indispensables, c'était genre 1%, donc vraiment rien du tout. Mais c'était toujours naturellement lié à des personnes disparues, tout ce qui est lié au passé, la nostalgie. Je crois que sinon, enfin, mais c'est pour moi, je crois que tout objet indispensable de la vie quotidienne, j'en ai vraiment rien à foutre. Tandis que vraiment tout ce qui inutile, là, je me cramponne, quoi.
Ce que montrent les études, c'est que même dans les années 60, donc bien avant Instagram, quand on demandait aux gens « si ta maison brûle, qu'est-ce que tu emportes ?», ils répondaient « mon album photo ». Parce qu'ils disaient « c'est mes souvenirs, c'est pareil, c'est mon passé, c'est la nostalgie, c'est les gens disparus ». Et Kodak, bien avant Instagram, c'était déjà une entreprise multimilliardaire, multimillionnaire. Est-ce que les réseaux sociaux, est-ce qu'Instagram marche sur ce même business, ou ce même besoin ou désir de nostalgie, selon toi, Nicolas ? Ou est-ce que ça a modifié ce rapport à l'image ?
Il y a un point commun en tout cas, c'est que c'est cette chose très étrange, quand la maison brûle, tout le monde part avec l'album photo, mais en réalité, qui regarde l'album photo ? Personne. Et je pense, alors c'est là où je suis sur la question d'Instagram, mais comme sur la question de l'album photo, je pense pas que ce soit des objets qui soient liés au passé. C'est-à-dire que finalement, on n'a jamais et plus l'algorithme de notamment d'Instagram se modifie. Plus en fait, on a de la difficulté à accéder à des images anciennes. C'est-à-dire en fait, on va rarement dans le passé. Il y a les images sont présentes, elles sont là, elles sont stockées comme étaient stockées les boîtes, les photographies qui étaient parfois dans des boîtes à chaussures. Et personne n'y mettait les pieds jusqu'à ce que il y ait quelqu'un qui meure, qu'on vide la maison, qu'on ouvre la boîte et que ça finisse sur un marché aux puces ou quelque chose comme ça. Et je pense que au fond, le système d'Instagram, c'est au contraire de mobiliser un surprésent, c'est de rendre impossible toute possibilité d'accéder au passé. Je pense qu'Instagram nous empêche fondamentalement, et c'est pas forcément le cas seulement d'Instagram, hein, mais c'est aussi le cas de Netflix par exemple. Ça nous empêche. Ça nous fait barrage. Ça fait barrage à la possibilité du passé. Et ça fait barrage par ailleurs aussi à la possibilité du futur. Hein. Je pense que ce que tu disais sur l'état absolument catastrophique du monde et notre incapacité totale à penser qu'il puisse y avoir quelque chose d'autre qu'une espèce d'explosion, c'est peut-être tout simplement qu'il y a une sorte de saturation, de densification du présent qui rend impossible à la fois l'accès à avant et par ailleurs la possibilité de penser après.
Donc ça nous maintient dans une espèce de limbe d'un surprésent perpétuel, avec notamment les stories par exemple, une espèce de flux permanent, c'est ce que tu dis, c'est à ça que tu fais référence ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Ouais.
Et aussi tout simplement parce que ça fonctionne exactement et je rejoins cette réflexion qui est de ce rapport entre les objets et les images. Finalement, les images sont des sur-objets.
C'est-à-dire
les images viennent démultiplier les objets. d'une certaine manière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur cette histoire? La société industrielle produit des objets en masse, c'est-à-dire multiplie les objets. Chaque objet va avoir un moule et va ensuite pouvoir être démultiplié. Et qu'est-ce que fait la photographie? La photographie vient redémultiplier à nouveau ces objets. Donc on va dire c'est un coefficient supplémentaire.
En les montrant dans les catalogues et après en les montrant sur Amazon.
En les montrant dans les catalogues. Pense à une chose, c'est la question du unboxing par exemple. Je reçois quelque chose et j'ouvre la boîte. En fait, on est passé dans quelque chose où finalement, ce qui nous importe, et c'est ce que tu disais par rapport à l'objet, c'est pas l'objet en tant que fonctionnel qui sert, c'est l'objet en tant que ce qu'il représente. Ce qui fait que vous allez être un soir, il est 23h, on s'emmerde un peu, on traîne, on se retrouve sur Amazon, on voit un truc, on l'achète. Mais en fait, le moment de la, on va dire, là où se place la libido, c'est dans le moment où on achète. Quand l'objet à la con qu'on a acheté arrive 3 jours plus tard ou le lendemain, et qu'on ouvre la boîte, il a déjà plus d'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est pas l'objet, c'est ce que l'image a déclenché comme désir et comment ce désir a été satisfait par l'achat.
Oui, c'est vrai. Moi, parfois, je vais jamais chercher mes colis même.
Ouais. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. C'est vraiment ce désir d'attendre. Moi, je me rappelle d'ailleurs même quand. Mais bon, là, je sais pas pourquoi je dois raconter ça
si,
ici.
Vas-y.
Mais je préférais acheter online. Alors vraiment, il faut pas. Mais c'est ce que parce que par exemple, quand j'achetais, parce que moi j'adore faire des études de marché. Hein. Moi, c'est vraiment ça. Je regarde la chose la plus incroyable, etc. Mais quand je vais dans un magasin, quand je sors ma carte de crédit, même si c'est un peu cher, etc., je dois faire un peu semblant que c'est nonchalant et allez, je paye. Alors que quand t'es chez toi, il y a toute cette excitation de te dire de pouvoir appuyer sur ce bouton et tu peux vraiment. Enfin, tu es seul.
Tu te rends pas compte que tu payes en plus souvent parce que c'est enregistré.
Oui, mais tu peux montrer cette excitation. Enfin, de tandis que.
Ah oui, tu peux montrer ta joie. Tu peux montrer ta joie quand t'es chez toi.
Oui, oui.
Ah, c'est intéressant.
Je sais pas, moi j'avais. Mais bon. Voilà.
Mais c'est en ça que l'image est le perfectionnement final ou presque du produit. C'est-à-dire, c'est le produit sans le produit. Et c'est là où sur cette question du bien de consommation, l'image est fondamentale. Parce que c'est la publicité, qu'est-ce que c'est? La publicité, c'est l'objet que je vois, qui est presque à portée de main et que je ne peux pas toucher. C'est-à-dire, en fait, c'est l'image. L'objet, c'est pas l'objet en soi, c'est comment est-ce que l'objet mis en scène dans l'image produit du désir. Je vois quelque chose, donc j'en ai envie puisque je le vois. Mais je ne peux pas y accéder puisque c'est une image. La vitrine, c'est le même principe. Une vitrine dans une rue, il y a une vitrine, il y a un objet derrière, je vois l'objet, je ne peux pas le toucher. Et donc, là où se trouve mon désir et là où se trouve mon besoin, c'est dans ce rapport à l'image. Du moment où l'objet va être payé, acheté dans son sac et que je peux le déballer, c'est trop tard.
Enfin, c'est-à-dire parce que c'est l'image dans son ensemble.
Ben, c'est plus la même chose.
Ce qu'on veut,
c'est quelque chose qu'on peut presque toucher, mais qu'on peut pas toucher. Du moment où on l'a, où on peut mettre des trucs dedans, s'en servir, ça n'a plus aucun intérêt.
Barbara, toi, pour ta performance, est-ce que tu t'es fixé des règles pour décompter tous les objets de ta maison? Comment t'as procédé?
Oui, j'étais bien obligée parce que au tout début, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, je crois, c'est d'établir toutes ces règles. Oui, il y a plusieurs règles. Donc déjà de je ne pouvais pas continuer ad vitam aeternam. Donc, j'ai décidé de faire pièce par pièce. Et quand je fermais la pièce, c'était terminé. Donc, même s'il y avait d'autres objets qui rentraient dedans, tant pis, voilà. Et j'ai mis aussi des post-it chaque fois que je terminais de photographier tout un tiroir. Parce que je me disais, les doublons, déjà, il y en a eu. Donc, parce que mes filles se volaient des vêtements. Donc,
oui.
Ça se retrouvait dans chaque chambre. Je n'ai pas photographié la nourriture parce qu'elle est éphémère. Donc, ça, j'ai décidé. Tout ce qui était... tout ce qui était attaché ou collé, etc., le restait sur la photo. Tout objet en plus de 50 exemplaires identiques, donc coton, tige, etc., je le prenais, je le photographiais ensemble. Et alors, tout ce qui était aussi dans son contenant d'origine, par exemple un puzzle, etc., ça restait ensemble. Mais par exemple, des Legos de mon fils qui ne sont plus dans leur boîte d'origine, bon, ben là, je les ai pris. Enfin, je les ai photographiés un par un. Donc, oui.
Ouais, dans ton bouquin, il y a des très belles pages avec plein de Lego photographiés un par un.
Non, c'est une catastrophe.
Non,
mais
non. Et ce qui est fou, moi, quand j'ai parcouru donc, le livre de ta performance, il y a un moment où il y a plein de photos de billes, les unes après les autres, et ça m'a étreint de nostalgie, alors que c'est pas mon enfance, ni ma famille, mais rien, mais ça m'a... Oh, c'est... pourquoi est-ce que ça fait mal comme ça de regarder des photos de billes?
Bah parce qu'on n'est plus là pour jouer avec.
Ouais.
C'est encore le je suis pas un très grand fan de Roland Barthes, mais il a quand même, c'est quand même lui qui a pointé d'une manière très claire la façon dont photographier quelque chose, c'est destiner un objet à la mort. C'est-à-dire ce qui est sur une image, c'est inaccessible par nature puisque ça appartient à un moment temporel qui est passé. Donc en fait, je pense que cette espèce de rapport, c'est là le paradoxe de ton interrogation d'une certaine manière, c'est qu'effectivement notre rapport aux images, il ne cesse de nous montrer des choses qui anciennes d'une certaine façon, donc qui dans certains cas ont disparu. Enfin, je sais pas, moi je vais sur Instagram, j'ai des comptes d'architecture brutaliste d'Europe de l'Est où la moitié des bâtiments ont été détruits, donc on voit des images de choses qui n'existent plus. Ou alors des choses de éloignées auxquelles on n'a pas accès. Donc, d'une certaine façon, ça mobilise ce passé, notre incapacité à être en ce moment aux Maldives ou notre incapacité à être dans la Biélorussie des années 60. Mais ou si on y était, d'ailleurs, on n'irait pas faire le tour de l'architecture brutaliste. Mais en tout cas, ça mobilise le passé, mais ça mobilise le passé dans un présent. C'est ce truc très pervers de l'image, en fait. C'est d'être simultanément quelque chose de mort et en même temps quelque chose qu'on ne cesse de ranimer par le regard.
Ça te rappelle que ça n'existe plus?
Oui, mais enfin, je pose la question quand même. Est-ce que c'est tellement mort justement? Enfin, je sais pas. Mais moi, je me demande justement si c'est quand même toujours une trace. Cette photographie d'objets, mais je veux dire, on peut parler du passé de notre enfance. C'est une. Je sais pas. Moi, j'ai quand même une sensation que j'arrive à oui, j'ai toujours ce problème de stabilité et ça me permet quand même de garder quand même une trace du passé. Donc, par exemple, avec ce catalogue, je sais qu'à la toute fin, j'ai eu un sentiment, depuis toujours, j'ai une sensation que je pourrais tout perdre du jour au lendemain. Je ne sais pas, justement, j'ai toujours peur du feu, je ne sais pas pourquoi, c'est une peur irrationnelle de devenir SDF, complètement irrationnelle. Et depuis que j'ai fait ce catalogue, je me dis, tiens, j'aurais toujours cette trace que ça existait. Enfin, et ce n'est pas les objets, c'est que cette vie a existé. Même si tout d'un coup, tout s'écroule, ça existe toujours. Je sais que c'est irréel.
Mais parce que toi, tu te places dans un espace, et c'est évidemment, là encore, l'une des ambiguïtés de la photographie. Moi, c'est pour ça que c'est un médium que j'adore et qu'en même temps, je ne supporte pas. C'est que toi, tu te places dans un espace qui est l'espace de l'art. Que l'espace de l'art permet, c'est précisément de venir réactiver quelque chose, non pas en tant qu'objet, mais en tant que fait affectif ou fait émotionnel. Et ça, c'est le propre de l'objet artistique. Je pense que c'est là que
l'objet artistique permet de faire vivre à travers le temps une émotion ou une chose qui a existé, comme les livres nous permettent de nous replonger trois siècles plus tôt, bien plus que n'importe quelle photo qu'on aurait pris à l'arrache, quoi.
Eh bien sûr, c'est l'objet artistique a cette fonction-là, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il sort, lui, réellement et radicalement d'une certaine temporalité. La sortie de l'image telle qu'on la consomme, on va dire, au lieu de la contempler, c'est pas dû à une différence de nature, c'est-à-dire qu'une photographie artistique, elle est pas différente techniquement d'une photographie publicitaire, c'est lié à une différence d'usage. On n'en fait pas le même usage. On n'en fait pas le même emploi. Et on n'est pas dans le même état mental, affectif, intellectuel face à l'image.
Et comment reprendre le pouvoir sur notre usage du temps? Comment retrouver un accès à notre passé et repenser à un futur, selon vous?
Oh, ça c'est compliqué.
Non, c'est dur, hein.
Tu peux pas nous dire on a une heure et puis...
Tu parlais, Nico, d'une guérilla du temps. Je trouvais que c'était une belle expression. Est-ce qu'une guérilla du temps est possible?
Alors, il y a quelques années, j'avais travaillé sur une question que j'appelais la balistique des images et qui était de considérer que il y avait pas seulement le contenu des images à prendre en compte.
Une balistique comme des balles de pistolet.
Comme des balles, exactement, comme des balles de pistolet ou des fusées, etc. C'est-à-dire de dire que ce qui est fondamental dans notre situation aujourd'hui par rapport à l'image, c'est pas l'image en tant que telle avec voilà, un carré ou un rectangle dans lequel il y a des choses qui sont représentées par une certaine forme technique. La question, c'est leur balistique. C'est-à-dire, à quelle vitesse est-ce qu'elles sont lancées, combien sont lancées, etc. C'est-à-dire, au fond, si vous prenez un caillou sur le crâne, c'est pas le caillou en soi qui vous blesse. C'est la vitesse à laquelle il vous parvient. Et d'une certaine façon, on est entré dans un espace où les images en tant que telles ne sont pas plus problématiques qu'elles l'étaient il y a 4 siècles. Elles sont problématiques en ce sens qu'elles sont militarisées, on va dire, je pense que le terme est juste, elles sont militarisées et elles acquièrent une vitesse, elles acquièrent une rapidité, elles acquièrent quelque chose qui produit un effet toxique et dangereux sur notre existence. Donc, il faut considérer ça, c'est-à-dire finalement, c'est pas tant l'objet en tant que tel, c'est la façon dont cet objet circule, c'est la façon dont cet objet est fabriqué, construit, produit, lancé, transmis, etc. Et je pense que s'il y a effectivement une guérilla à mener, je crois vraiment qu'on est dans une situation assez difficile, c'est-à-dire notre rapport, en tout cas l'extrême modification du rapport aux images, l'extrême violence du rapport aux images, elle demande à entrer dans un espace de survie, en quelque sorte.
Ouais, voilà, il faut se révolter, de révolte, quoi.
Mais oui, et puis...
Pour récupérer notre cerveau, puis notre passé, notre futur, c'est quand même des choses importantes. Vitales même, parce que surtout politiquement, quand on voit vers la catastrophe vers laquelle on fonce tête baissée, il est urgent de récupérer notre capacité à repenser un futur. Ouais.
Alors, sur la guérilla du temps, je pense que précisément... C'est un problème de balistique, c'est-à-dire c'est pas tant la question de est-ce que les
Donc
images sont fautives.
Il faut essayer de s'exposer à moins d'images déjà soi-même.
Mais je pense que c'est même pas tant essayer de s'exposer à moins d'images, c'est comprendre à quel point la façon dont on les reçoit, dont on les consomme, dont elles sont produites est complètement dangereuse en fait, enfin, est complètement toxique.
Avoir conscience
donc c'est vraiment la structure des objets qui nous lancent des images. Pense à un truc très simple. Pour moi l'origine de cette situation historiquement c'est le 11 septembre. Le 11 septembre c'est le premier acte de guerre qui a lieu dans l'image. On frappe deux tours. Pourquoi on frappe deux tours? Parce que la première est frappée au moment où la première tour est frappée. Toutes les caméras se tournent sur les deux tours en question. Et ça veut dire que l'événement est vécu en direct. Donc c'est pas les 2000 ou 3000 morts de ce jour-là qui sont visés et qui sont touchés. Eux, ils sont des dommages collatéraux, c'est-à-dire le corps est un dommage collatéral. Ce qui est vraiment frappé, c'est quoi? C'est la rétine de tous ceux qui, dans le monde entier, en direct, vont voir un avion qui percute une tour encore et encore et encore et encore et encore, parce qu'on en a l'âge de s'en souvenir.
C'était pas ces personnes-là qui voulaient tuer précisément pour des raisons, c'était le symbole d'attaquer le symbole, les tours.
Mais c'est pas le symbole, c'est l'acte de la vision en direct de cet événement. Moi, ça m'avait frappé quand j'étais allé à New York en 2004 et on était en Europe totalement traumatisés par le 11 septembre. Et puis, je me balade à New York, je rencontre des New Yorkais, on discute, etc. Et eux avaient fait leur deuil du 11 septembre. Parce que pour eux, c'était réel ce qui s'était passé. Pour nous, ça s'était passé dans un espace qui était celui de l'image. On avait été frappé par cette image, pas une fois, mais 2000 fois. Enfin, j'ai vu 2000 fois cet avion rentrer dans cette tour. Et puis les tours s'effondrer, j'ai vu ça, des centaines de fois. Et il n'y avait rien qui venait produire un travail de deuil dans le réel, puisque ça s'était passé dans l'image. Et ça, c'est le modèle, c'est la même chose. Vous ouvrez Instagram et vous allez être percuté d'un nombre de choses. Moi, j'étais en week-end, il y a 15 jours, anecdote, mais j'étais en week-end, tranquillement, un peu à la campagne, et puis j'ouvre Instagram et là, je vois machin qui a un vernissage de trucs, telle expo, tel bidule. J'ai pas encore allumé la lumière chez moi, je suis pas encore sorti de mon lit et je suis en train de me dire mince, mais j'aurais dû rester à Paris pour faire ça, j'aurais dû aller à ça, je devrais être à Bruxelles pour faire ceci. Je me retrouve complètement écartelé par les images parce que je me retrouve complètement bombardé par les images. On est vraiment dans un truc qui est militaire. Alors comment faire ça, c'est une autre question. Mais enfin comment s'en sortir, c'est une autre question.
Je te coupe l'espace d'un instant justement pour prendre le temps de réfléchir à comment faire. On se retrouve juste après cette toute petite pause. « Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si Instagram a tué le passé, puis peut-être aussi le présent et le futur, avec les artistes Barbara Evans et Nicolas Giraud. Barbara, tu pensais au début, donc quand tu as commencé à travailler sur ta performance, que ça allait être une grande performance de dénonciation anticapitaliste en disant on détient trop d'objets. Est-ce que tu as été horrifiée par le nombre d'objets que tu possédais? 11 000, on rappelle, 12 795, c'est 4, nous c'est...
Ah oui, 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 95, j'adore le 95, je vais continuer, bah oui.
Ah non, là, t'as raison.
Il y a une belge chanteuse qui l'a utilisé, justement. oui, donc...
Mais 95, c'est 95.
95,
ouais, pardon.
12 700.
Vas-y.
J'ai été horrifiée, oui, bien entendu que j'étais horrifiée, mais en fait c'est drôle, je crois que j'étais horrifiée plus avant de me lancer dans le projet, parce que je ne savais pas d'ailleurs à quoi je m'attendais, que pendant le travail. Pendant le travail, justement, je réalisais en fait progressivement et très vite que 90%, enfin 99%, j'en avais vraiment. Mais...
Et est-ce que tu t'es rendu compte que il y avait certains de tes enfants avec qui tu as acheté plus de choses qu'à d'autres?
Eh bien non, justement, je suis très contente.
Ah ouais,
parce que j'ai, donc, puisque mes critères, j'en ai fait quand même beaucoup, hein, donc c'était tout, hein, c'était couleur, matériaux, fréquence d'utilisation, j'ai fait aussi valeur estimée. Et donc j'ai pu estimer la valeur totale de chaque pièce. Et mes enfants, mon aîné, c'est autour de 9 000. Je ne sais plus, hein, mais c'est 9 000, 8 000 et puis 7 000. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est à peu près équilibré, mais selon leur durée, leur vie.
Sur voilà. Terre. Oui, c'est ça.
Donc voilà. Donc non, je n'ai pas fait de favoritisme, même si on sait tous que c'est mon fils qui est mon chouchou. Mais...
Et la pièce dont la valeur est la plus élevée, c'est laquelle?
C'est malheureusement la mienne. Ah, attends, c'est peut-être le salon, mais non, c'est la mienne. Oui, voilà, c'est la mienne.
Et dans le livre consacré à ta performance, t'expliques qu'il y a certains objets sur lesquels tu t'arrêtes et tu expliques un peu leur histoire. Moi, il y en a deux qui m'ont bouleversée. Est-ce que tu es d'accord pour nous raconter l'histoire de la sébile ou du sébile? Je ne sais même pas si c'est féminin ou masculin.
Moi non plus, effectivement, je ne connaissais pas ce... Ah, c'est drôle que ce soit cette histoire-là. En fait, c'est des assiettes roses que j'ai chez moi maintenant, mais qui appartiennent à ma grand-mère. Et en fait, on déjeunait, je ne sais pas, tous les mois, je crois, chez eux, à Gand. Il faut savoir, ils sont beaucoup plus âgés, parce que mon père est assez âgé. Et donc, je les vouvoyais déjà, donc j'avais très, très peur. Je réfléchissais toujours à ce que j'allais dire dans ma tête avant de penser quoi que ce soit. Et là, je devais lui annoncer que j'arrêtais. C'était une autre école d'ingénieur commercial pour commencer la communication. Et lui, à part économie et droit, il y avait rien. Et donc, et mon père qui me foudroyait du regard en disant « Non, tu annonces à ton grand-père. » Vraiment, je ne bronchais pas, j'attendais qu'on m'oublie. Bon, j'ai dû l'annoncer. Et mon grand-père s'est tourné vers mon père en lui disant... Il ne m'a rien dit. Il s'est juste tourné vers mon père en disant... n'hésitez pas à lui offrir... Enfin, je ne sais plus exactement, mais n'hésitez pas à lui offrir une sébile. J'ai rien osé dire. Et puis dans la voiture, je dis là, c'est quoi une sébile? Et en fait, c'est la coupole d'un mendiant, en fait. Donc,
Et après, ils t'en ont vraiment acheté, du coup, pour que t'en aies chez
non,
toi?
Non, bien
non. Non, parce que ce serait vraiment...
Là, on comprend mieux pourquoi cette jeune fille, enfin, vieillissante, a fait un catalogue.
Non, non. Oui, c'est ça. Oui, tu m'étonnes. On se demanderait pourquoi tu aurais peur de devenir SDF, ouais.
Donc voilà.
Et il y a aussi celle de la bouillotte que t'as déchiquetée.
Là, c'est en fait... En fait, mon mari, en fait, j'ai appris que mon mari me trompait et j'ai eu le temps de le foutre dehors et j'aurais rêvé, enfin, je crois qu'à posteriori et même avant, je me suis toujours dit si un jour on me trompe et que je l'apprends, je jette tous les vêtements par la fenêtre comme une espagnole. Et non, je ne l'ai pas fait. Je crois que... Parce que je suis espagnole, pardon. Et non, et que je casse toutes les assiettes, etc. Oui. Non, mais je crois que j'étais tellement dans la sidération que donc je l'ai foutu dehors et je me suis retrouvée en boule sur mon lit et j'ai senti quand j'étais vraiment en train de pleurer, j'ai senti cet objet qui est une bouillotte que mon ex-mari mettait toujours contre son dos la nuit. Toute chaude, mais voilà, elle refroidissait pendant la nuit et elle se retrouvait toujours sur moi, froide et molle. Et voilà, et donc en fait, je me suis vengée sur cette bouillotte. C'est la première chose que j'ai fait quand je l'ai foutue dehors. J'ai cherché des ciseaux, j'ai découpé cette bouillotte.
Et t'as gardé après les fragments.
Et j'ai gardé les fragments.
Oui, et t'as gardé après les fragments.
Mais bon, voilà. Mais je les ai plus, par contre. Je sais que je les ai photographiés et puis c'était terminé.
Et par contre, il n'y a aucune photo de toi dans ce livre.
Non.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans ton livre, tu cites un article de la journaliste Sophie Fontanelle, où elle écrit que certaines personnes sont plus belles en mouvement, que leur personnalité n'existe pas à travers leurs traits figés. Est-ce qu'on voit vraiment une personne quand on la prend en photo?
Quand on fait son portrait?
Ouais, ou quand on la prend en photo, est-ce qu'on la voit vraiment?
Alors, Émile Zola avait cette phrase que je trouve très belle, où il disait « On n'a jamais vraiment vu un objet tant qu'on n'en a pas vu une photographie. »
Et avec les gens, alors ?
Et je pense que c'est évidemment valable avec les gens. Et ça, mais c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la sébille et la bouilloire, parce que ça produit cette chose, en fait, le portrait photographique. Déjà, on fait une minute historique, mais il y a un truc assez étonnant au moment de l'invention, enfin dans les années qui suivent l'invention de la photographie. Il y a un photographe qui s'appelle Adolphe Disdéry, enfin pas un photographe, mais un entrepreneur, on pourrait dire, qui s'appelle Adolphe Disdéry, qui met en place un système où il fabrique des cartes portraits. Et donc, vous allez chez Disdéry, il fait une grande planche de portraits de vous, donc il y en a, voilà, et puis il les duplique un certain nombre de fois. Et vous, quand vous vous déplacez pour vos mondanités quotidiennes, vous allez voir un copain, tout ça, etc., il n'est pas chez lui, et donc il était coutume de déposer sa carte, et donc ce que vous faites, c'est que vous déposez votre photographie. Donc, et finalement, c'est ça qui est fascinant dans le 19e, c'est la façon dont... tout notre 21e siècle, il est déjà réalisé à ce moment-là. C'est ça, on s'envoie des selfies, quoi. Et donc, on dépose comme ça son portrait, et les gens ont des albums dans lesquels ils gardent les portraits les uns des autres, etc. Et on est sur quelque chose qui est exactement de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on commence à fabriquer un autre nous-mêmes, qui est ce nous-mêmes en image, qui est un nous-mêmes un peu compliqué parce qu'il ne nous appartient plus. Une fois que notre portrait est en train de circuler, on ne sait pas qui il est. Proust, dans La recherche du temps perdu, essaye de négocier avec un de ses potes pour qu'il lui passe un portrait de sa tante parce qu'il fantasme dessus. Enfin, donc, voilà, et l'avantage du portrait, c'est qu'effectivement, et c'est là le dos de la phrase de Zola, c'est que le portrait, comme l'image d'un objet, l'objet qui est en photographie, je ne peux pas l'utiliser. La personne qui est en photographie, je ne peux pas y accéder non plus, elle ne me répond pas. Et en fait, c'est cette chose très complexe, c'est-à-dire qu'à la fois, elle ne me répond pas, ou elle ne me répond plus, ou elle ne me répondra jamais. Et en même temps, d'un autre côté, elle ne me dit pas non. C'est-à-dire que je peux avoir une photographie, je sais pas... On se fait larguer par quelqu'un, on va toujours garder une photographie ou quelque chose comme ça qui... Donc,
ça paraît évident, mais en même temps, c'est vrai que c'est comme ça que fonctionne... Enfin, c'est sur cette ambiguïté-là, peut-être, que fonctionne le succès des contes comme celui d'Emily Ratajkowski, enfin, de toutes ces femmes sublimes qui sont suivies par des centaines de milliers, de millions d'hommes qui savent très bien qu'elles ne leur répondront jamais, mais qui mettent quand même des émojis, des cœurs, enfin, qui commentent quand même. Et il y a une espèce de... Enfin, c'est assez... quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, mais pourquoi ? Enfin, ils savent bien qu'elles s'en foutent complètement, mais ils le font quand même.
Oui, mais par contre, enfin, parce que là, on parle souvent du côté utilisateur qui reçoit les images. Mais moi, je commence beaucoup plus à me poser les questions, justement, ceux qui les postent. Moi, je me demande, parce qu'on commence quand même, et surtout les jeunes, je veux dire, commencent quand même tous à bien connaître les rouages. C'est pas comme si on était complètement naïf. Mais je me demande de plus en plus si ceux qui postent ces images, si c'est tellement encore vis-à-vis du public ou vis-à-vis d'eux-mêmes. Et moi, je crois qu'il y a quelque chose où on aime se tromper. Ils le savent. En fait, je crois qu'on sait bien entendu que c'est fictif. Et quelque part, on ne peut pas faire autrement.
Mais moi, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est cette question, la prothèse. C'est-à-dire qu'on fabrique une extension de nous-mêmes qui va par ailleurs avoir un impact et un effet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont voir ces images, qui vont les trouver bien, qui vont les trouver pas bien, qui vont réagir dessus, etc. C'est simplement une extension de nous-mêmes. Il faut évidemment qu'on soit attentif au fait que parce qu'on fabrique cette prothèse, on perd quelque chose.
Je suis tout à fait d'accord, mais quelque part, il y a quand même aussi un contrôle soi-même. Enfin, là, je parle de nouveau, peut-être d'un nouveau artistique. Dans l'image, par exemple, d'un point de vue artistique créatif, on va dire, parce que ce soit dans l'écriture, etc. Avant, enfin, là, je parle plutôt dans l'art, c'était quand même toujours des professionnels. Donc, c'était des magazines qui décidaient ce qu'ils allaient montrer. C'était la télé, des galeries, des curateurs, des commissaires. Enfin, je veux dire, c'était eux qui avaient un œil et qui choisissaient celui, la personne qui allait être vue, écoutée, etc. Tandis que, quelque part, avec les réseaux sociaux, je crois que c'est aussi lié à la mondialisation, c'est pas que les réseaux sociaux, mais c'est un peu, c'est pas un jury populaire, mais quelque part, tout le monde a le droit de créer son image, sa réalité, son travail, montrer son travail, et essayer de le faire vivre, en tout cas. Avant, c'était.
Ce serait vrai s'il n'y avait pas d'algorithme. S'il y avait,
ça, c'est vrai, ça, t'as raison.
Vrai s'il y a, parce que du coup, il y a quand même y a une autre chape invisible.
Et puis, on est pris dans un autre truc absolument terrible. Il y a cette phrase hyper célèbre de Warhol qui dit: dans le futur, tout le monde sera célèbre pendant un quart d'heure. Et en fait, on fait rarement le calcul. C'est-à-dire que, imaginons qu'on soit tous célèbres pendant un quart d'heure. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, si on est célèbre pendant un quart d'heure, ça implique pendant un quart d'heure, tout le monde s'occupe de nous et tout le monde nous parle et tout le monde, voilà, repose notre image. C'est quoi tout le monde? C'est nous aussi. Donc ça veut dire que être célèbre pendant un quart d'heure, ça veut dire que le reste entier de notre vie, il est occupé, et c'est exactement ce qui se passe, hein, quand on est sûr, il est occupé à célébrer les autres. C'est-à-dire, en fait, on passe notre temps à célébrer d'une manière un peu délirante machin, truc, qui a posté ceci, qui a fait un bidule, qui a fait là, dans l'espoir, à un moment, d'arriver à notre petit quart d'heure qui va durer, dans lequel ce sera à notre tour de ne plus avoir besoin de faire des choses. Et puis, ben, après, on retournera à l'usine.
Tu crois que c'est ça, la motivation inconsciente derrière chaque like?
Oh non.
Moi, je crois que c'est ça, t'as raison, ouais, c'est ça.
Quoi, vous
c'est
un marché noir. Vous avez tellement l'impression qu'on a tellement peur d'être insignifiant, enfin, je veux dire.
Ah ben, mais je pense pas que ce soit un sentiment qu'on ait. On est aussi dans un espace de réaction, on essaye de s'adapter, parce que les outils nous changent, et puis nous, on essaye de survivre à ces changements-là. Et survivre à ces changements-là, c'est effectivement faire ça. Moi, je vois, j'ai plein de copains artistes, moi-même d'ailleurs, dans des interrogations qui sont « Merde, est-ce que je suis assez présent sur les... » Et en fait, non, on a besoin d'être présent dans notre atelier. On n'a pas besoin d'être présent sur Instagram. Et en même temps, ça ne nous empêche pas, quand on voit que machin, il a fait plein de trucs, et puis, on se dit, merde, est-ce que je suis au bon endroit?
Mais non, c'est vrai que toute personne aujourd'hui qui veut porter un message, que ce soit journalistique, artistique, se pose la question d'est-ce qu'il faut devenir aussi influenceur propre travail.
C'est un peu comme les bitcoins, quoi.
C'est-à-dire?
Mission impossible.
C'est-à-dire, c'est une pyramide de Maslow. Il y a un moment où la chose s'effondre sous son propre poids. Puisque si on se retrouve à avoir tous un message absolument qui doit être entendu, qui écoute?
Oui, tout à fait.
C'est vrai. Bah, c'est ce que tu disais, nous tous, on s'entre-écoute dans l'espoir de s'entre-étouquer. Bref, le temps file, mais j'aimerais aborder une dernière question. Dans ton livre, Nicolas, tu écris qu'avec les réseaux, je ne peux plus jamais être seule, je suis toujours plus que seule. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, et c'est plus aussi, c'est élargi, pas seulement les réseaux, mais c'est cette chose qu'on connaît tous, c'est-à-dire on est dimanche, il est 14h, on s'emmerde, on ouvre son téléphone et puis on s'aperçoit qu'on a reçu un mail de quelqu'un du boulot pour un truc de taf et on commence à y répondre et puis ensuite on va sur... C'est-à-dire que finalement, parce qu'on a cette prothèse-là qui nous a été vissée, qu'on le veuille ou pas, finalement on est constamment... soumis à sa stimulation. Et donc, du coup, on n'est jamais seul. On est au bout de... On est n'importe où. On a du réseau. Et d'ailleurs, si vous voyez bien l'angoisse de n'importe qui arrive en disant « T'as pas un chargeur ?»
C'est vrai.
Vous voyez, ce moment très angoissant où tout d'un coup, on est dehors et on a... Mais pourtant, on est dehors, on est dans le monde, on a tout, on a notre portefeuille, notre carte bleue, on est dans une soirée, il y a des gens... Mais on n'a plus de batterie.
Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est terrible.
Oui, je sais. Pardon, je sais pas. Dire. Mais là aussi, effectivement, mais par exemple, parce que là, on parle de nous, nouveau, mais par exemple, les réfugiés, par exemple. C'est idiot, mais je veux dire, il y en a tellement de plus en plus. Et là, justement, le fait que les réseaux sociaux, je veux dire, avec un téléphone, parce qu'on leur enlève leur téléphone en 3 secondes, 3 mouvements, les réseaux sociaux permettent justement d'avoir ce lien en permanence.
Avec... Oui, bien sûr, nous, on parle de notre condition privilégiée où on n'est pas déraciné à l'autre bout du monde et le téléphone est notre dernier lien avec notre famille,
bien
évidemment.
Bien entendu, mais c'est pas le téléphone, c'est les images qui restent, ce côté ancré qui permet... Mais bon, effectivement, c'est pas exactement la même chose. Bien entendu que c'est pas la même chose. Mais je sais pas, il y a quelque chose... Enfin,
mais je crois qu'on est aussi victime du marketing de l'objet. C'est-à-dire la même question qui s'est posée sur les révolutions arabes en disant « Ah mais c'est incroyable, regardez comment les révolutions arabes ont été nourries par les réseaux sociaux. » Et c'est la même chose
par
avec...
Twitter, on pensait que Twitter allait apporter la démocratie.
Bon, pour l'instant, on a compris que Twitter n'amènerait pas la démocratie. Et par ailleurs, on voit aussi, même ne serait-ce qu'il y a... Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas, la Deuxième Guerre mondiale... montrait bien comment, effectivement, il y avait des questions qui étaient de savoir qui avait un poste de radio, comment on transportait le poste de radio, qui gardait le poste de radio. Enfin, là, il y avait on était sur des guerres qui étaient des guerres technologiques. Mais malgré tout, les fonctionnements étaient aussi des fonctionnements de quelqu'un m'a dit qu'il y a une maison. Enfin, voilà, il y a la capacité de la parole, des choses, des images à circuler de main en main, d'une manière très, très légère, a pas attendu, en fait, les réseaux sociaux, qui s'avèrent en plus, par ailleurs, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, y compris, par ailleurs, le nôtre, s'avèrent des outils de contrôle des populations, de contrôle de ce qui est dit, d'écoute, de surveillance, qui sont... démultiplié, c'est-à-dire que plus la capacité des réseaux permettent d'organiser une révolution, plus la capacité des réseaux permettent d'organiser une contre-révolution. Et comme ils sont majoritairement quand même des objets conçus par des entreprises qui ont des intérêts et qui représentent à la fois des pouvoirs économiques et politiques, ils deviennent forcément des outils et de l'économie et de la politique. Et je ne sais pas si je confierais les clés de ma voiture à Jeff Bezos ou Elon Musk. Et pourtant, c'est ce qu'on fait, enfin, d'une certaine manière.
Barbara, le mot de la fin, si tu devais photographier un objet dans le studio, ce serait lequel?
Alors là, mais oui, bon, tu demandes ça, une égocentrique, il n'y a rien à moi ici.
Non, tes bijoux peut-être?
Non, je crois à ton micro, bien entendu. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est déjà la fin. Merci, on a appris plein de choses à vous écouter. C'est déjà fini notre conversation, elle est déjà dans le passé. Merci à nos chers invités Nicolas Giraud, merci Barbara Evans. Merci à notre chargée de production Charlotte Beck, notre réalisateur Thomas Chalvidal. On peut plus rien dire, c'est le podcast de débat de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Et nous, on se retrouve vendredi prochain dans le futur, donc pour un nouveau débat. À très vite.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.